se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
Il est 6h, excellent réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h, vous avez rendez-vous avec Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Et à 6h, il n'y a plus aucun Français à Roland-Garros. Tous éliminés au deuxième tour, comme il y a deux ans, le dernier représentant Arthur Rinderknecht qui était sorti hier soir en 4-7. Nantois, sous le choc dans l'Ain au lendemain de la fusillade qui a fait un mort, la ville calfeutrée pendant 6h. Et le Conseil d'État qui donne 2 mois au gouvernement, ultimatum pour appliquer le contrôle technique des deux roues.
Et puis, 99 centimes, la barquette de tomates cerises. Oui, mais des tomates marocaines. Concurrence déloyale dénoncée par les producteurs français qui sont en colère et qui multiplient les actions coup de poing. Leur représentant est avec nous juste après ce journal. Roland Garros, eh ben c'est déjà fini pour les Français.
RMC Roland Garros 2023.
Et les trois qui jouaient hier, eh bien, ont tous les trois perdu. Diane Paris, Océane Dodin et Arthur Rinderknecht, dernier représentant battu en 4-7 hier soir par l'Américain Taylor Fritz, tête de série numéro 9, malgré le soutien du public à Roland Garros, que nous raconte Léna Marjac pour RMC.
Sorti sous les applaudissements du cours Suzanne Lenglen, Arthur Rinderknecht, 78e mondial, était la dernière chance française et pendant son match, le public lui a rappelé.
Après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes, bon bah t'es le dernier français, t'as intérêt à gagner, bon bah j'ai fait le max.
Forcément déçu de ne pas aller plus loin.
J'aurais aimé être le dernier français en demi ou en quart ou en huitième, comme on l'a souvent été, bon c'était un deuxième tour malheureusement.
À la sortie du stade, les supporters ne sont plus étonnés par les résultats de nos Français.
Je vais pas dire qu'on a l'habitude, mais ça reste inquiétant quand même.
C'est sûr ouais. Qu'on aimerait qu'ils aillent plus loin, mais bon, je pense qu'on leur met beaucoup de pression aux joueurs français.
Pour Florent Serra, consultant tennis, il y a une lueur d'espoir, la nouvelle génération arrive.
S'ils font les choses bien, qu'il n'y a pas de blessures, qu'ils continuent à bosser comme ils le font, c'est des joueurs qui vont vite grimper et qui peuvent se retrouver tête de série aussi à Roland-Garros l'année prochaine. Je pense qu'on peut de nouveau prétendre avoir des Français en deuxième semaine.
Pour autant, c'est la deuxième fois dans l'histoire de Roland-Garros qu'aucun Français, homme et femme confondus, ne se qualifie pour le troisième tour, porte d'Auteuil.
Une deuxième fois sous l'European et même la troisième si on compte le tournoi de 1968, un tournoi qui va continuer aujourd'hui, mais sans les Français, avec les favoris pour le début du troisième tour, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Il est 6h02 sur RMC et cette question, toujours pourquoi cette fusillade mortelle hier à Nantua, dans le département de l'Ain. Un jeune de 19 ans a été tué par balle par un tireur de 29 ans qui a pris la fuite avant de se rendre 6h plus tard. Tout est parti d'une rixe près d'un café. Témoignage RMC d'ailleurs ce matin, écoutez la patronne de ce café qui apportait les premiers secours et qui connaissait les protagonistes.
Il y a eu une échauffourée. En fait, ça s'est passé super vite. Moi, j'ai vu Mustapha qui est mort maintenant, allongé juste sur le trottoir en face de mon bar. Ils ont fait du massage cardiaque. Ça a duré plus d'une heure. Je sais qu'à un moment, on m'a dit il est décédé, mais on veut pas créer d'émeute, donc on continue. Voilà. Le papa, il était là sur la margelle en larmes. La maman, elle est arrivée un petit peu plus tard et tout le monde s'est retranché dans mon bar, en fait, la famille. C'était un gentil garçon. Il avait 19 ans.
Vous me disiez, ça s'est jamais passé, ça ?
Jamais, mais même Mehdi qui a tiré, j'ai jamais eu de problème avec. C'est des histoires à la con, quoi.
L'échec est collectif. Voilà ce que dit le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, c'était hier soir sur BFM TV, 3 semaines après le suicide de Lindsay, une collégienne de 13 ans qui s'est suicidée sur fond de harcèlement scolaire à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. La famille de Lindsay annonce qu'elle a déposé plainte contre le collège, contre l'académie, contre les policiers aussi en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril et contre Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, complètement défaillante, dit la famille, sur la modération des propos haineux en ligne. Le Conseil d'État pose un ultimatum et donne 2 mois au gouvernement pour instaurer le contrôle technique des deux roues. Ce contrôle, c'est une obligation européenne, mais la France traîne des pieds pour mettre en place ce contrôle des scooters et des motos, Mao Becker-Granier pour RMC.
C'est au 1er janvier 2022 que le contrôle technique pour les deux roues motorisées aurait dû entrer en vigueur, mais depuis, le gouvernement ralentit sans cesse sa mise en application. Le Conseil d'État avait déjà ordonné une première fois au gouvernement d'accélérer, mais toujours rien. La Première ministre souhaitait même faire marche arrière et annuler le décret qui rend le contrôle technique obligatoire. C'est pourtant une obligation européenne. Début mai, trois associations environnementales posent à nouveau un recours devant le Conseil d'État et obtiennent gain de cause. Cette fois, le Conseil d'État sévit. Il ordonne la mise en application du contrôle technique avec un délai de 2 mois. Et pour chaque jour de retard, l'État devra payer 1 million d'euros d'amende.
Le week-end sera moins magique que prévu à Disneyland Paris avec une nouvelle journée de grève demain dans le parc d'attractions en région parisienne, la 4e en 3 semaines, un mouvement sur les salaires des employés de Disney qui étaient 1 000 000 à manifester dans le parc d'attractions, c'était mardi, et qui vont remettre ça demain. Mouvement inédit, Margot Boult pour RMC.
18 ans d'ancienneté chez Disneyland et premier jour de grève pour cette salariée qui souhaite rester anonyme. Elle n'en peut plus des journées longues et des horaires décalés.
J'ai fait des journées où on devait effectivement faire 5 heures de shift et où finalement on se retrouve à en faire 10. Ce système en fait va nous faire travailler certains jours 4h15 et certains jours plus 10h. Enfin, je veux dire, c'est impossible de mener une vie normale dans ce genre de conditions.
La direction dément, elle explique que les salariés choisissent leur système d'horaire et qu'aucun d'entre eux ne travaille plus de 9 heures par jour. Mais les grévistes ont un deuxième sujet de colère, les salaires.
On est quand même une entreprise qui génère énormément de bénéfices. Cet argent-là, à un moment donné, dans les poches de qui il va? S'il ne va pas dans nos poches à nous, on nous le répète assez souvent. La magie, c'est vous. Bah oui, la magie, c'est nous, oui.
Les syndicats réclament des augmentations de salaire de 200 euros. Contre-proposition de la direction, une prime de 125 euros. De quoi attiser la colère des grévistes, comme l'explique Michaël Gallier, délégué syndical UNSA.
Une prime exceptionnelle, ok, ça va nous permettre de faire un chariot de course une semaine. C'est pas ça qui va aider dans le futur, en fait.
L'entreprise répond que globalement, depuis 7 mois, les salariés ont été augmentés de 9 à 12%.
Il est 6h06 sur RMC, le championnat de Ligue 1 n'est pas encore terminé, que bien déjà ça s'agite dans les clubs français, le mercato est en préparation. Marseille va changer d'entraîneur, ça y est on le sait, puisque l'actuel Igor Tudor a confirmé son départ hier pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Il promet qu'il n'a pas d'accord avec la Juventus en Italie où il est régulièrement annoncé. Et Paris a 2 joueurs dans le viseur, Fabrice Hawkins pour RMC, l'attaquant espagnol Marco Asensio et aussi le défenseur français Lucas Hernandez.
Oui, d'ailleurs, les dirigeants du PSG se sont déjà mis d'accord avec les deux joueurs. En défense d'abord, Lucas Hernandez veut rejoindre le club de la capitale. Le champion du monde a fait savoir au Bayern qu'il n'a pas l'intention de prolonger son contrat qui se termine en juin 2024. Les Allemands offrent aux défenseurs français une prolongation jusqu'en 2027, mais Lucas Hernandez a fait son choix. Il en a même discuté avec certains de ses coéquipiers dans le vestiaire. Il faut maintenant que Paris et le Bayern trouvent un accord sur le prix du transfert. En attaque, l'objectif du club est de boucler rapidement l'arrivée de Marco Asensio. Cette fois, pas de négociation avec le Real Madrid. L'Espagnol de 27 ans est libre. Son explosivité et sa polyvalence sont des atouts pour le PSG qui veut étoffer son effectif. L'ancien monégasque Bernardo Silva et Victor Osimhen sont toujours courtisés.
Et puis on connaîtra ce soir l'épilogue de la Ligue 2. 3 clubs sont dans la course à la montée pour la Ligue 1, mais il y a seulement 2 places, voilà tout l'enjeu. Le Havre est leader avec 3 points d'avance sur Metz et Bordeaux. Les 3 équipes vont recevoir ce soir leur match, ce sera à 20h45, évidemment sur RMC, l'épilogue de la Ligue 2.
Mais oui, ce multiplex Ligue 2, c'est ce soir sur RMC, et puis on retrouve Quentin Vinet tout à l'heure, à 7h, pour un prochain journal sur RMC, il est 6h08.